Bonjour à tous, je suis Alice Hachet, je vous souhaite la bienvenue dans l'empreinte. Nous allons essayer de comprendre ensemble comment les marques d'aujourd'hui s'engagent ou non pour notre planète. Chaque semaine, je reçois donc des start-upers, des PDG de grands groupes ou encore des directeurs de la RSE qui m'expliquent comment leur entreprise s'engage pour porter une révolution de l'impact sur notre planète. Et avant de commencer cet épisode, je souhaite vous présenter le nouveau partenaire de l'empreinte.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Dans ce nouvel épisode de l'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Amélie Lumeau, la directrice du développement durable du groupe ADP, le leader mondial de la conception, la construction et l'exploitation des aéroports. Salut, je suis ravie de t'accueillir dans l'Empreinte.
Bonjour.
Vaste sujet qu'on va aborder. En plus, on n'a jamais eu ce secteur d'activité dans l'Empreinte, donc j'aimerais bien d'abord qu'on dresse peut-être un bilan.
Donc ADP, on est un gestionnaire d'aéroports. Donc on a 3 aéroports en région parisienne, qui sont Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et le Bourget, et puis 10 aérodromes d'aviation civile. Et on exploite aussi 24 autres aéroports dans le monde, dans 14 autres pays. Voilà, et donc du coup, notre métier, c'est effectivement concevoir, construire et puis ensuite assurer l'exploitation de ces aéroports pour des durées qui peuvent être limitées dans le cadre de concessions ou qui peuvent être comme à Paris avec une vision très long terme.
On associe souvent avion à pollution. Forcément, c'est un enjeu pour le groupe ADP, j'imagine.
Absolument. On a aujourd'hui une action, nous, sur évidemment en premier lieu, notre champ direct de responsabilité, qui est donc l'exploitation des infrastructures aéroportuaires. Mais c'est évident qu'on a effectivement aussi une responsabilité et un enjeu d'action au-delà, à la fois sur donc les avions, donc les enjeux des avions qui sont principalement les émissions de gaz à effet de serre, la pollution atmosphérique et le bruit pour les populations riveraines. Et puis, on a un enjeu aussi sur les mobilités terrestres, à la fois parce qu'on est des hubs de transport intermodaux. Donc, on a, par exemple, dans nos aéroports parisiens, des lignes de transport en commun, mais aussi une gare TGV, par exemple, à Roissy. Et puis aussi sur l'accès en voiture des passagers et des salariés, qui est aussi une part non négligeable, en réalité, de nos impacts, à la fois sur la riveraineté et puis plus généralement. Donc, effectivement, on essaye réellement d'agir avec ces tiers que sont chaque passager, chaque salarié qui vient et du mode de transport qu'il utilise, et puis ensuite sur les avions.
Finalement, c'est une logistique qui regroupe plusieurs secteurs d'activité, entre le bâtiment, la mobilité, etc. Donc, comment vous faites ? Parce que ça doit être un vaste chantier, si je peux utiliser ces termes.
C'est un vaste... Alors déjà, c'est un vaste chantier parce que les aéroports sont assez souvent en chantier.
C'est vrai, c'est vrai.
C'est des infrastructures qui vivent et qui sont qui ont souvent un endroit en ordre de travaux. Alors déjà parce que les aéroports ont un certain âge, les aéroports parisiens, ça date des années 60 pour Orly et des années 70 pour CDG, donc on a un besoin de... pour Charles de Gaulle, pardon, donc on a un besoin de mettre à jour ces infrastructures. Et puis aussi parce que dans une activité qui jusqu'à la crise Covid était en croissance, l'objectif bien sûr c'est de travailler sur la densification et l'optimisation des infrastructures, donc de ne pas construire, consommer des surfaces de manière continue, mais essayer d'optimiser au mieux. Et donc, ça impose parfois de faire des travaux parce que les infrastructures avaient pu être conçues dans les années 60, dans une période où on avait un moindre besoin de densifier l'usage au mètre carré des installations. Et puis on a des enjeux de mise aux normes. Par exemple, aujourd'hui, si on prend le sujet des bagages, on a un enjeu de traçabilité, de sécurité sur les bagages qui n'est plus du tout le même que celui qu'on avait à l'origine et qui impose là aussi de faire des travaux sur ces infrastructures.
Est-ce que dans ces nouveaux enjeux, il y a la durabilité et à l'impact environnemental des infrastructures ?
Alors bien sûr, l'impact environnemental des infrastructures, c'est un enjeu majeur. Alors depuis longtemps, j'ai envie de dire, mais notre engagement, par exemple, d'atteindre la neutralité carbone, on l'a pris en 2017. l'engagement du transport aérien de diviser les émissions par deux. C'est un engagement qui a été pris d'abord en 2016 et confirmé en 2019, donc qui a été préalable en tout cas à la crise et y compris à l'enjeu FlixCam, qui est celui qui a fait émerger le sujet vers la deuxième moitié de l'année 2019. Donc on a cet enjeu-là, et puis bon, bien sûr, on a historiquement, comme toute activité économique, l'enjeu de baisser les charges liées à l'énergie, et plus particulièrement sur les compagnies aériennes qui ont une part de leur coût qui est extrêmement forte sur les carburants. Donc de toute façon, l'enjeu, historiquement, l'enjeu économique rejoignait beaucoup l'enjeu d'économie de charges sur l'énergie. Après, aujourd'hui, la donne a changé, parce qu'effectivement, c'est devenu un principe absolument prioritaire pour tous, donc on est sur cette exacerbation de ces enjeux-là. Donc nous, on souhaite effectivement aller vers le zéro impact sur notre champ de responsabilité, donc qui passe d'abord par la neutralité carbone, puis par le zéro émission nette, donc sans aucun achat de compensation. Et donc, ça passe...
C'est important de le dire, que vous ne compensez pas. Le but, c'est de ne pas émettre.
Alors, le but, c'est de ne pas compenser. On va en passer par une étape intermédiaire, oui, en 2030, dans laquelle on aura des émissions résiduelles. Mais effectivement, on n'est pas aujourd'hui en train d'annoncer aujourd'hui une neutralité carbone sur de la compensation.
Et comment vous allez pouvoir faire, du coup? C'est ça qui est intéressant.
Alors, on a un objectif de diminuer au maximum nos émissions. Donc là aussi, sur notre champ de responsabilité, ça passe par trois leviers principaux. Donc là aussi, les travaux dans les infrastructures qui permettent de limiter la consommation d'énergie, le fait de produire de l'énergie renouvelable au lieu d'acheter du gaz.
On va avoir des éoliennes à côté.
Les éoliennes à côté des aéroports, c'est assez peu probable parce que ça crée une petite gêne. En fait, en réalité, l'électricité, on l'achète dans le réseau, mais on l'achète avec des garanties d'origine qui certifient qu'elle est verte. En revanche, par contre, la chaleur, donc le chauffage de nos installations, on le produit sur place. Et donc là, on a une géothermie à Orly et une centrale biomasse à Charles de Gaulle. Et on va mettre en service dans les prochaines années une centrale géothermique aussi à Charles de Gaulle. Et puis ensuite, le dernier levier, c'est les flottes, donc toutes les flottes propriétaires qu'on a, de passer sur des véhicules basse émission. Donc, on a ces émissions-là. Ensuite, on risque d'avoir un petit volant résiduel d'émissions en 2030 parce qu'on a des sources notamment de sécurité d'approvisionnement en chaleur par le gaz. Donc, en fait, en réalité, qui n'est pas totalement décarboné. Et puis, sur certains véhicules très lourds, comme les véhicules de pompiers, les déneigeuses, qui sont des gros véhicules lourds et qui n'existent pas en basse émission. Donc, notre objectif, ensuite, c'est de réussir à passer à l'absorption et donc de mettre des puits de carbone sur nos installations ou du capteur de CO2 dans les fumées des centrales. Donc on est sur cette démarche-là. Et puis après, effectivement, notre objectif aujourd'hui, au-delà de ce champ de responsabilité, c'est vraiment d'élargir notre impact sur donc les tiers et donc la chaîne de valeur, ce qui est absolument un enjeu majeur. Et donc on travaille aujourd'hui avec les compagnies aériennes sur la décarbonation du transport aérien.
Ah, donc c'est bien, c'est un travail main dans la main.
C'est un travail main dans la main.
De vos flottes, de tes flottes.
Donc on a d'abord cet enjeu, on
c'est,
y tient quand même.
Parce pour que nos auditeurs, un peu pour rappeler un peu ce que...
Nous, on a énormément de véhicules, nos flottes à nous, ADP, hein, c'est, on a énormément de véhicules qui circulent. On a des véhicules qui circulent parce que c'est les navettes qui emportent les passagers dans les avions, quand les avions ne sont pas au contact des terminaux, parce que c'est là aussi les véhicules de pompiers, les véhicules, les déneigeuses et autres, parce que c'est les véhicules, les navettes plutôt qui assurent
c'est la
circulation
la
des passagers sur le côté avant les terminaux, etc. Effectivement, sur les véhicules d'inspection de sécurité des pistes, sur les véhicules d'inspection de sécurité animalière, enfin sur tout un tas de véhicules. On a une très grosse flotte de véhicules qui est aujourd'hui à un tiers décarboné et qu'il faut qu'on emmène jusqu'au bout. Mais bien sûr, après, l'enjeu, il va au-delà. Et c'est ça vraiment l'enjeu majeur aujourd'hui. On a aujourd'hui la conviction de pouvoir amener l'aviation européenne à la neutralité carbone en 2050.
Comment est-ce qu'on pourrait faire ?
Parce que Yann-Arthus
Bertrand, que j'ai eu dans l'empreinte, me disait qu'il avait décidé d'arrêter de prendre l'avion. Il avait bien pris l'avion déjà, donc bon. Il avait décidé d'arrêter de prendre l'avion. Et si demain tu lui dis, ce sera neutre.
Alors, c'est exactement ça l'objectif, hein, c'est que ce soit neutre en carbone. Donc, c'est quelque chose qui prend plus de temps que sur nos installations. C'est pour ça qu'on est sur du 2050. L'objectif, c'est 2050. On a un premier levier, c'est la poursuite du remplacement des flottes. Aujourd'hui, chaque avion de nouvelle génération consomme à peu près un quart de carburant en moins par kilomètre que les avions précédents. Donc, on diminue d'à peu près 25% les émissions en continuant le renouvellement des flottes d'avions. Ça, c'est le levier entre guillemets le plus simple. C'est simplement, on poursuit l'amélioration et ça vient du fait que les avions sont de plus en plus légers au fur et à mesure du temps. Donc, plus ils sont légers, moins ils consomment. Après, on a les opérations aériennes. Quand on réussit à organiser les trajectoires des avions pour qu'ils prennent le trajet le plus direct entre le point A et le point B, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui parce qu'il peut y avoir de la perte d'optimisation aux frontières, etc., on peut là aussi faire des économies. Ce n'est pas le plus gros levier non plus, mais ça permet de faire un certain nombre d'économies et d'émissions. Hein. Et puis parce que c'est aussi leur trajectoire optimisée quand ils atterrissent et ils décollent. Et puis après, les deux gros leviers qui permettent de faire ça, c'est les carburants alternatifs. Donc ça veut dire que l'objectif final, en 2050, hein, c'est d'avoir des avions les plus légers possibles qui ne consomment plus de kérosène. Donc des avions ultra légers qui consomment soit des carburants alternatifs, donc issus de la biomasse ou de synthèse, soit de l'hydrogène.
Et qui pourront,
soit pour le coup fondamentalement différent.
Qui pourront transporter autant de voyageurs ou moins du coup.
Et qui pourront transporter autant de voyageurs, bien sûr. Alors en fait, le fait est que les solutions ne sont pas les mêmes pour les différentes catégories d'avions. Quand on se projette à long terme, pour les courts et les moyens courriers, l'objectif, c'est la bascule sur les avions à hydrogène, parce que les avions à hydrogène sont vraiment zéro CO2. Et en plus, ils ont un gain sur les effets non CO2, parce qu'ils réduisent notamment les traînées de condensation des avions, puisqu'ils émettent plus que de la vapeur d'eau. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui a un impact maximal sur le climat, enfin sur la baisse des émissions de CO2. Et ensuite, pour les longs courriers, effectivement, l'hydrogène, a priori, ne permettra pas de décarboner les longs courriers, pour les longs courriers, d'avoir le recours aux carburants alternatifs sur lesquels on estime aujourd'hui qu'on peut aller de jusqu'à 80-90% de baisse d'émissions sur le cycle de vie par rapport à ce qui existe aujourd'hui sur le kérosène.
Et donc, pourquoi on ne le met pas déjà en place ?
L'avion hydrogène, il est aujourd'hui en phase de développement. Donc, on a eu les concepts, mais l'objectif, c'est une entrée en commercialisation.
Il y a plein de tests à faire, j'imagine.
Il y a plein de tests à faire, exactement. C'est des nouvelles. Bon, déjà, c'est des circuits de distribution. C'est un carburant totalement nouveau, hein, qui ne peut pas être mélangé avec le kérosène. Donc, on est vraiment sur quelque chose de nouveau. Il faut des installations spécifiques et il faut une réglementation spécifique. Enfin, on a des règles à mettre en place, des normes à mettre en place. Et ça ne prend pas le même volume. L'hydrogène, c'est léger, mais ça prend beaucoup, beaucoup de place. Donc, en fait, ça impose de revoir un peu la conception des avions. Donc, on a des avions nouveaux et l'objectif, c'est donc une commercialisation pour le milieu de la décennie 2030. En réalité, compte tenu des développements à faire, ça reste quelque chose qui n'est pas si lointain. Et ensuite, les carburants alternatifs, eux, en effet, pour le coup, on pourrait les mélanger aujourd'hui. Et on a d'ailleurs déjà des tests et on espère avoir prochainement un avion, justement, test là aussi, qui parte de Roissy avec un volume important de carburants alternatifs dans ses réservoirs. Le problème, il est double. Il est d'une part la création de la filière de production. Aujourd'hui, on a assez peu d'installations qui produisent des carburants durables pour l'aviation. Et d'autre part, le défi, il est économique parce que, en fait, c'est des carburants qui coûtent beaucoup plus cher que le kérosène, qui coûte au moins 4 fois plus cher.
Ça allait être, oui, ma question. Du coup, est-ce que le prix d'un billet pour un passager sera plus élevé ? Moi, je ne trouve pas ça délirant qu'on paye cher l'avion parce que ça doit rester quelque chose. Pas du tout. Alors, il n'y a aucun sujet d'inclusion. Hein. Je ne dis pas que les riches peuvent prendre l'avion et les pauvres non, mais je pense que ça doit rester de l'exception l'avion et pas le trajet pour aller faire son lunch de travail, revenir, faire un petit aller-retour à Ibiza. Enfin,
Le prix du billet d'avion, aujourd'hui, c'est difficile aussi de le dire parce qu'en fait, ce mécanisme va nécessairement nécessiter à un moment donné un accompagnement des pouvoirs publics, ne serait-ce que pour faire émerger la filière. On a besoin au début d'avoir une émergence. Donc, l'impact final sur le prix du billet d'avion, il est difficile à connaître, mais sur le principe, oui, bien sûr, progressivement, dans le temps, au fur et à mesure d'une augmentation de la part de carburant qui sera du carburant bas carbone, on va avoir progressivement, très probablement, une hausse du prix du billet d'avion, effectivement.
Et moi, je l'encourage, en fait. On va me détester, mais l'encourage. Je pense que le protéger notre planète a un prix, a un coût. Et on a fait l'inverse depuis quelques années. Donc là, maintenant, il faut peut-être réparer aussi en...
La réalité, je pense, au-delà de ça, hein, c'est que, de manière générale, l'économie va vers une orientation où l'énergie va devenir plus chère. Enfin, il y a le sujet des avions.
Ce qui est rare et cher.
C'est rare. Et puis, à un moment donné, l'éolien ou le solaire, c'est peut-être pas rare au sens strict, mais plus on va basculer sur des énergies renouvelables qui imposent là aussi de faire émerger les installations de production, etc., qui ont des circuits logistiques aussi spécifiques, il est probable que dans l'économie en général, l'énergie coûte plus cher. En tout cas, dans l'aviation, c'est très certain. Mais
je pense qu'il y aura adopte ton éolienne et t'en mets une pour du jardin.
C'est probablement pas un mouvement qui ne concerne que notre secteur. Le secteur de l'aérien, de l'aéroportuaire, c'est absolument passionnant. Alors, d'une part, parce que c'est effectivement un secteur qui évolue, qui se transforme, qui a été un pionnier de l'innovation dans le temps, mais aussi un secteur qui regarde sur le long terme. Et c'est quand même intéressant d'avoir cette perspective. Et quand on est aujourd'hui un acteur de l'aéroportuaire, on essaye justement de voir ces sujets-là avec une projection à 15-20 ans, ce qui n'est pas forcément le cas partout. L'intérêt des aéroports, c'est vraiment d'être ces lieux justement d'agrégation de l'ensemble de ces enjeux. Des enjeux de bâtiment et donc de transformation là aussi vers du bâtiment bas carbone, des enjeux de transformation de l'un des secteurs les plus difficiles à décarboner qui est l'aérien, le sujet de toute la mobilité. Et puis en fait, les aéroports, ce sont aussi des territoires pas si différents de collectivités qui sont implantés dans des zones et qui ont des relations extrêmement fortes avec les communautés locales. Et ça, c'est passionnant aussi. On a un rôle de très grande proximité avec les acteurs locaux, que ce soit des riverains ou des acteurs institutionnels. Donc, on est quand même dans un monde assez spécifique, à la fois d'agrégation de beaucoup de problématiques et de caractère extrêmement concret d'une relation très forte avec des territoires. Donc je pense que c'est un univers passionnant.
Et ça fait longtemps du coup que tu es...
Non, ça fait pas très très longtemps. Moi, je suis arrivée dans le groupe ADP il y a maintenant 4 ans.
4 ans, quand même. Donc, tu as eu le temps de voir arriver aussi cette crise, cette pandémie, parce que je suis obligée d'en parler. Le secteur est touché, est terriblement touché. Hein. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites face? Parce qu'il y a du coup l'enjeu environnemental, mais il y a l'enjeu économique. Hein. C'est quand même assez double. Enfin, assez double, c'est double. Typiquement, même triple. Je pense qu'il y en a d'autres d'enjeux en ce moment, mais...
Oui, c'est clair qu'on est sur un secteur qui avait l'habitude d'être en croissance. En fait, de manière générale, le transport aérien a une évolution où il croît à peu près deux fois plus vite que le PIB et il décroît à peu près deux fois plus vite que le PIB. Enfin, quelque chose comme ça. Hein, c'est très lié.
C'est comme la bourse, en fait.
Voilà, exactement. un secteur qui était en forte croissance et qui se retrouve en chute brutale. Et ça c'est une chose. Mais sans doute, effectivement, aujourd'hui, avec la nécessité de réinventer son modèle. Et c'est ça qui est aussi absolument passionnant. Et il est probable, en effet, que dans l'univers post-Covid, on passe d'un modèle de croissance forte en volume vers un modèle de croissance plus modérée et dans lequel ces enjeux-là vont prendre une importance croissante. Mais étant donné que, de mon côté, je m'y intéresse depuis quelque temps en essayant justement au maximum d'accélérer ces investissements dans la transition, on aura sans doute encore plus la nécessité de le faire et une prise en compte de ces enjeux-là à une échelle particulièrement stratégique post-crise Covid. Mais oui, c'est sûr que le modèle se transforme et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, dans cette période de crise, à la fois on a l'enjeu de réaffirmer la priorité de ces investissements et de ces enjeux-là, même dans un contexte où on a une contrainte sur nos moyens, et puis aussi de réfléchir à ce que ça veut dire pour le long terme, cette transformation. Et pour nous, ça passe notamment, par exemple, par vraiment retravailler sur la correspondance entre le train et l'avion et se dire qu'aujourd'hui, on avait peut-être une qualité de service qui était très forte pour les gens qui passaient de l'avion à l'avion et que demain, il faut vraiment qu'on s'assure que quand on arrive du train et qu'on prend l'avion, on est dans une expérience aussi qualitative et que c'est auprès de ces passagers-là qu'on veut aussi accorder toute notre attention. Donc, on a vraiment aussi cet enjeu de transformation. Et puis après, la contrainte économique, elle peut parfois servir, entre guillemets, parce que le premier enjeu, c'est d'utiliser au mieux ce qu'on a, notamment sur les infrastructures, et d'aller jusqu'au bout dans l'utilisation de nos infrastructures et ne pas construire plus, finalement. Et ça, c'est aussi quelque chose où on a une vraie cohérence entre un enjeu économique et un enjeu de transformation durable.
Donc finalement, ça englobe beaucoup la mobilité. Et puis, j'ai l'impression qu'il y a une façon aussi de sensibiliser le voyageur aussi à cette mobilité plus durable. Qu'est-ce que tu dirais, alors ma question elle est un petit peu audacieuse, à quelqu'un qui adore voyager et prendre l'avion, mais qui est écolo, et qui du coup est tiraillé entre... qu'est-ce que tu lui dirais ?
Le voyage, ça se regarde dans sa globalité. Donc, c'est de mon départ à mon arrivée, y compris du départ de chez moi à mon retour chez moi. Et donc, le temps passé, le mode de transport que je vais utiliser à la fois pour aller à l'aéroport, l'avion, etc. Comment je vais me comporter pendant mon voyage, la durée pendant laquelle je pars et le ratio de la durée de mon voyage versus mes émissions. Bon, ça, c'est une chose. Ensuite, derrière, sur son transport, je pense qu'il faut vraiment se renseigner parce qu'aujourd'hui, toutes les compagnies aériennes n'ont pas non plus le même impact. Les avions modernes ont vraiment un impact considérablement réduit par rapport à des avions plus anciens. Donc on peut aujourd'hui, on a l'information quand on achète un billet d'avion de l'appareil dans lequel on vole. Et puis certaines compagnies aériennes ont pris des engagements plus forts que d'autres là aussi. Et puis après, on a toujours le choix en tant qu'individu. Bien sûr, le secteur fait ses efforts et c'est pas du tout une manière de se dédouaner. Mais ensuite, aujourd'hui, s'il y a une date T, je veux voyager. Au-delà de considérer le voyage dans son ensemble et de choisir l'appareil le moins émissif, je peux aussi choisir de compenser mes émissions par des programmes qui sont de qualité variée là aussi, mais là où on peut vraiment choisir un programme exigeant de compensation. Et certaines compagnies proposent d'ailleurs un accompagnement dans le choix de ces compensations.
C'est bien de le savoir, ça. C'est intéressant. Est-ce que tu aurais envie d'aborder un dernier point avant de clore cet épisode ? Comme on a beaucoup... En fait, il y a tellement de choses à aborder, mais on va rester concise pour que nos auditeurs puissent vraiment retenir ces points essentiels, parce que ça m'a passionnée en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses. Est-ce que tu aimerais encore aborder un dernier point ?
Ce qui peut être important à rappeler aussi, c'est qu'on travaille sur le reste.
Bien sûr.
Le reste, c'est vaste aussi, mais on a un enjeu qui est extrêmement fort sur la préservation de la biodiversité aussi, parce qu'on a des terrains extrêmement importants, notamment en région Île-de-France, et puis que le transport aérien a aussi... des choses à dire sur cet enjeu de préservation de la biodiversité. On travaille sur la gestion des déchets, on travaille sur la gestion de l'eau, sur les sols. Donc en tout cas, voilà, dire on a conscience que l'enjeu climatique est absolument essentiel aujourd'hui, mais notre objectif, c'est bien de voir plus large et puis de travailler aussi, bien sûr, sur cette problématique d'engagement aux côtés de nos territoires sur lesquels on a conscience que la crise est extrêmement dure pour les territoires d'influence aéroportuaire. Et donc, on travaille vraiment avec eux aussi sur le redémarrage de l'activité et la possibilité de donner de la visibilité sur les métiers du futur. Et ce dont on se parle peut être d'ailleurs créateur d'emplois. Enfin, voilà, les carburants alternatifs, c'est aussi remplacer de l'approvisionnement depuis les pays du Golfe par de l'approvisionnement de production en France ou en Europe.
Local,
voilà, exactement. Ou en tout cas en Europe, mais en tout cas qui sont vraiment des emplois nouveaux que cette transition énergétique doit aussi permettre ça.
Merci Amélie.
Merci.
Merci à vous d'avoir écouté l'Empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager et commenter le podcast. Et proposez-moi des profils aussi inspirants qu'Amélie. Je me ferai un plaisir de les recevoir dans l'Empreinte.